إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالحمد لله سبحانه وتعالى نواصل دروسنا فيما تيسر لنا من شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه والحمد لله سبحانه وتعالى نقرأ اليوم باب ما جاء في الرقى والتمائم فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقية بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعيد فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة الشرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن كيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي رحمه الله تعالى طيب Donc on passe bien Allah Azza wa Jalla au chapitre suivant, intitulé par l'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, le chapitre de ce qui a été rapporté concernant Ar-Ruqa wa Tama'im. Concernant Ar-Ruqa wa Tama'im. Donc Ar-Ruqa, c'est le pluriel de Ruqya, et Tama'im, celui de At-Tamima. Taïr. Naam. فقال هنا المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي وما ورد عن السلف في ذلك ولم يجزم بكونها من الشرك لأن فيهما تفصيلا Donc ici dit le Cheikh حفظه الله تعالى ورحمه l'auteur chapitre de ce qui a été rapporté concernant الرقاه et التمائم c'est-à-dire concernant l'interdiction de ce qui a été rapporté yani concernant الرقاه والتمائم yani chez السلف chez les pieux prédécesseurs en cela et ici vous remarquerez que dans le titre il n'a pas mentionné le fait que ces deux choses-là font partie du polythéisme car en effet il y a yani, des choses à détailler pour pouvoir émettre un jugement à savoir si c'est du shirk ou pas. Donc ici, الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الباب السابق قال الإمام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وقال هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع وتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا لهذا عبر رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من أدب التصنيف العالي. Donc, il dit ici, Cheikh Saleh, que Allah Ta'ala, le chapitre précédent qu'on a vu la semaine dernière était intitulé chapitre fait partie du shirk, le port de l'anneau et du fil, pour ceux qui, donc, qui ont assisté au cours précédent. Alors que dans ce chapitre-là, il dit chapitre de ce qui a été rapporté concernant al-ruqa et al-tama'im. Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit fait partie du shirk al-ruqa wa al-tama'im. D'accord ? Contrairement au chapitre précédent. Pourquoi ? Parce que al-ruqa, yani parmi les types de ruqya, il y en a certains qui sont permis et légiférés, mais d'autres qui vont relever du polythéisme et donc interdits. Et pareillement pour al-tama'im. Al-tama'im, yani, il y a des types de tama'im sur lesquels il n'y a aucune divergence sur le fait que ce soit du polythéisme. Mais certains types de tama'im, eh bien, il faut savoir que les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont divergé à savoir si ces tama'im, ces types de tama'im particuliers, relèvent du polythéisme ou pas. Voyez ? Donc ici, la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas mentionné directement que ces choses-là font partie du polythéisme, c'est pour ces raisons-là, c'est-à-dire que concernant al-ruqa, certaines formes de ruqya sont permises et légiférées, et d'autres sont interdites et atteignent même le degré des shirk. Alors que pour le tama'im, il y a des formes de tama'im sur lesquelles les ulama sont unanimes sur le fait que ce soit du shirk, mais d'autres formes de tama'im, les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont divergé sur leur statut, est-ce que c'est du shirk ou pas du shirk. Taïeb ? Naam. C'est pour cela qu'ici, donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a intitulé son chapitre par ce qui a été rapporté concernant al-ruqa et al-tama'im. Et cela donc fait partie, bien sûr, de la conduite lorsque l'on veut rédiger un ouvrage. Hein, c'est la conduite qu'il faut adopter au niveau de la précision et de la rigueur, hein, par rapport aux informations. Naam. Alhamdulillah. Vous savez que le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, bien sûr, a atteint un degré immense en termes de rigueur et en termes d'ouvrage et de précision dans les questions qu'il soulève. ثم قال الشيخ حفظه الله والرقى جمع رقية الرقى جمع رقية وهي معروفة وقد كانت العرب تستعملها وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث فيها ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع. Donc الرقى, comme on a dit tout à l'heure, c'est le pluriel de رقية. C'est le pluriel de رقية. Et la رقية, c'est quelque chose qui est connu, alhamdulillah. Il faut savoir que les Arabes utilisaient al-ruqya Taïeb, jusqu'à nos jours, alhamdoulillah. Et donc, la réalité de la ruqya, c'est quoi? Eh bien, ce sont des invocations, des paroles, des formules qui se disent ou qui se récitent. Et ensuite, il y a une fatofia, c'est-à-dire qu'on va postillonner ou sortir, on va souffler en sortant de l'air avec un petit peu de salive, avec un tout petit peu de salive. Ça, c'est le nafas. Le nafas, c'est quoi? C'est sortir, c'est souffler en sortant un peu de salive. Et parmi donc ces invocations, parmi ces formules, parmi ces paroles que l'on récite ou que l'on lit ou après lesquelles donc on va faire ce qu'on appelle un nafath, c'est le fait de postillonner, de sortir de l'air avec quelques salives, quelques postillons, eh bien certaines de ces ruqyas vont avoir des résultats et des effets sur les membres corporels, des effets biologiques, des effets physiques sur le corps de la personne. Certains vont avoir des effets sur l'esprit et sur l'âme de la personne. Certaines ruqyas, comme on a dit, sont permises et légiférées, mais d'autres sont du polythéisme et donc interdites. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث الحديد ورقى كذلك غيره كما في إحدى روايات الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات بل ثبت أنه رقي أيضا رقاه جبريل عليه السلام كما أخرجه مسلم طيب عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وكذلك رقته عائشة رضي الله عنها كما خرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها فهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم معقود لبيان حكم الرق في بيان رقم الرقى حكم الرقى وقد رخص الشارع في الرقى ما لم تكن شركا وهي الرقى التي خلت من الشرك وقد سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من حكم الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك Malam yakun fihi shirk. Donc, il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya sur lui-même. Yani, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, muslim, selon Aisha radiallahu anha, qui a dit que le prophète, lorsque yani, il ressentait yani, une douleur à cause d'une maladie, eh bien, il lisait sur lui-même. Il lisait sur lui-même. Il lisait quoi? Al-Mu'awwidhat. Donc, Al-Mu'awwidhat, les savants ils disent, c'est Sourat, Al-Nas, Al-Falaq et Al-Ikhlas. Puis, Yanfouth. Puis, il faisait ce qu'on appelle Al-Nafath, c'est-à-dire il crachait, il soufflait en sortant un peu de postillon sur lui-même, jusqu'à la fin des hadiths. Donc, il faisait ruqya sur lui-même et aussi sur les autres. Comme l'a rapporté Aïcha également, radiallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un était malade, yani au sein de ses proches, de sa famille, eh bien, il soufflait en crachant un petit peu sur lui, via les al-mu'awwidat, c'est-à-dire les sourates que l'on a citées. Et il a été rapporté également que Jibril alayhi salam a fait ruqya sur le prophète aussi, alayhi salatu wa salam, comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, est-ce que tu es malade? Il lui a dit oui. Et là, Jibril lui dit, donc, Bismillah arqib min kulli shay yudhik, yani la dua que lui a dit Jibril alayhi salam jusqu'à la fin, il lui a dit Bismillah arqib, au nom d'Allah, je te fais ruqya. Taïeb. Et également Aïcha, elle a fait ruqya sur le prophète alayhi salatu wa salam, également. Hein, comme l'a rapporté Aïcha elle-même, qui a dit que le prophète, lorsqu'il était malade de sa maladie, à cause de laquelle il est mort, eh bien, le prophète, au début, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait sur lui-même, il faisait ruqya sur lui-même. Mais lorsqu'il était trop faible pour le faire sur lui-même, eh bien, elle a dit quoi? Elle a dit, c'est moi qui lisais sur lui et je faisais le nefef sur lui, dans ses mains, dans les mains du prophète, alayhi salatu wa salam, puis elle essuyait le prophète avec les mains du prophète, elle essuyait, elle l'aidait à s'essuyer, à essuyer son corps, son propre corps. Mais c'est elle qui lisait et c'est elle qui faisait le nefef parce qu'il était trop faible pour pouvoir le faire. Regardez ici, l'importance de se faire ruqya soi-même. Regardez le prophète, alayhi salatu wa salam, même sur son... pendant sa maladie, dans laquelle il était très faible, il était en train de, hein, il était au seuil de la mort, eh bien, il faisait quand même ruqya sur lui. Il n'a pas demandé à qui que ce soit de lui faire ruqya, il faisait ruqya sur lui. Et quand Aïcha, elle a vu qu'il était trop faible pour se faire soi-même ruqya, elle a pris ses mains et elle a récité dans ses propres mains. Hein, par rapport à la baraka qu'il avait dans ses mains, bien sûr, et elle a donc essuyé le corps du prophète avec les mains du prophète, alayhi salatu wa salam. Non. Donc ce chapitre-là, le chapitre, comme il dit ici l'auteur, ce qui a été rapporté concernant Ar-Ruqya et Tamaim, il a été donc rédigé ici pour exposer quel est le statut, quel est le jugement de Ar-Ruqya. Taïeb, donc vous savez que le législateur, il a autorisé, des types de ruqa tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme, bien sûr. Voyez? Et donc cette ruqya, eh bien, c'est la ruqya qui est dénuée de toute forme de polythéisme. Donc elle est permise. Certains compagnons, radiyallahu anhum, ont interrogé le prophète, alayhi salatu wa salam, sur justement le jugement de ruqya. Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, alayhi salatu wa salam? Il a dit, exposez-moi vos ruqya. Yani, montrez-moi comment vous faites ruqya. Puis il a dit, il n'y a pas de mal concernant les ruqya tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme. Tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme. Mais malgré ça, il a quand même demandé aux sahaba de lui montrer comment il faisait ruqya et avec quoi il faisait ruqya. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il fasse des choses ou qu'il dise des paroles qu'il disait à l'époque avant l'islam et dans lesquelles il pouvait y avoir des formes de polythéisme. Taïeb. وقد قال العلماء الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. Maintenant, écoutez bien, on va parler des conditions de justement de la ruqya qui est légiférée. Quelles sont ces conditions et comment cette ruqya deviendra donc légiférée et permise? Donc, les ulama, ou certains ulama, ont dit qu'elle sera permise sous trois conditions. Sous la trois conditions, c'est-à-dire que ces trois conditions-là doivent être. Naam, rempli. Hein? Et respecté. La première, que cette ruqya soit faite avec le Coran ou les noms d'Allah ou les attributs d'Allah. Première condition.
que cette ruqya soit faite avec le Coran, la parole d'Allah, ou les noms d'Allah, ou les attributs d'Allah Jalla Jalaluh. هذا هو شرط الأول. الثاني أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعنى. Deuxième condition, que la ruqya soit faite en arabe. Qu'elle soit faite en arabe, c'est-à-dire en langue arabe. Avec des mots dont les sens sont compréhensibles et connus. طيب الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله عز وجل قال بعض العلماء رحمهم الله يدخل في الشرط الأول أيضا أن تكون بما ثبت في السنة وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو بسنة أو بأسماء الله أو بصفاته فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة. Troisième condition, que l'on n'ait pas la croyance que cette ruqya représente yani, un intérêt ou bénéficie à la personne par elle-même. Yani, indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou en dehors d'Allah jalla wa ala. Au contraire, il faut que l'on ait la croyance que cette ruqya, elle peut être bénéfique, mais bien sûr, tout ça sous la prédestination d'Allah et sous le décret d'Allah Jalla wa Ala.
Ça ne doit pas représenter quoi ?
On ne doit pas avoir la croyance que cette ruqya, elle est bénéfique de par elle-même, c'est-à-dire indépendamment d'Allah Jalla wa Ala. On doit croire qu'elle est bénéfique et qu'elle est utile, justement, à travers le décret d'Allah, à travers la prédestination d'Allah Jalla wa Ala. Certains savants disent que rentre également dans la première condition. Donc on a dit, la première condition, c'était quoi? Qu'elle soit faite avec le Coran, les noms d'Allah ou les attributs d'Allah. Certains savants ont rajouté, yani, qu'elle soit faite avec ce qui a été rapporté de manière authentique dans la sunna. D'accord ? Donc on va rajouter, dans la première condition, on va rajouter, il faut que la ruqya soit faite avec le Coran ou la sunna ou les noms d'Allah ou les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc la ruqya ne sera permise que si ces trois conditions-là sont réunies. La ruqya ne sera permise que si ces trois conditions-là sont réunies. Ça y est. فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني ففي جواز رقيتي خلاف بين أهل العلم والشرط الثالث متفق عليه بينهم وأما اشتراط كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم فإن هذا مختلف فيه كما تقدم وقال بعضهم يسوغ أن تكون رقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى ولا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجع تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن شاء الله. Donc si viennent à manquer la première condition et la deuxième condition. On le répète, première condition, on avait dit que la ruqya se fasse soit avec le Coran, soit avec ce qui a été affirmé dans la sunna, soit avec les noms d'Allah, soit avec les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Deuxième condition, que la ruqya soit faite en langue arabe, compréhensible. Ça y est. Il dit le cheikh, si ces deux premières conditions-là viennent à manquer, eh bien les ulama, ils ont divergé sur l'autorisation, sur la permission de cette ruqya. C'est-à-dire que une ruqya qui n'est ni faite ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec le nom d'Allah, ni avec la tribu d'Allah. Ou une ruqya qui n'est pas faite en langue arabe. Eh bien, les savants ont divergé. Alors que la troisième condition, qui est le fait de croire que la ruqya, bien sûr, n'est pas bénéfique en dehors d'Allah, et que, indépendamment d'Allah, mais qu'elle n'est bénéfique que par le décret d'Allah et par la prédestination d'Allah, Jalla wa Ala, bien sûr, cette troisième condition-là, yani, il n'y a aucune divergence à son sujet. Cela va de soi. Mais sur le fait que la ruqya doit se faire avec les noms d'Allah, ou les attributs d'Allah, ou les livres d'Allah, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle soit faite en langue arabe, compréhensible, eh bien, comme on a dit, ceci est un sujet, ou est sujet à divergence. Certains savants, ils ont dit, il est permis. Il est permis de faire un ruqya avec des paroles qui sont compréhensibles. Alhamdulillah. Et dans le sens est correct, que ce soit en arabe ou pas. Que ce soit en arabe ou pas. Ils disent que ce n'est pas une condition que cela soit en langue arabe. Et ce n'est pas une condition que ce soit fait avec le Coran ou la Sunna. Donc, ce sujet, Yani Djelechir, comporte des questions, des points, à divergence, et qui doivent être observés et examinés, étudiés. Concernant aussi, est-ce que autre que le Coran peut avoir des effets sur la santé, sur le corps de la personne, sur l'esprit ou l'âme de la personne sur laquelle on fait cette ruqya, eh bien, tous ces points-là, toutes ces questions-là, on va les remettre à plus tard, on va les remettre à plus tard, et on est de façon détaillée, hein, Inch'Allah ta'ala. Taïeb. Non. فالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها رحمك الله هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله جل وعلا أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين أو اعتقاد المرقي فيها أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي بيانه والحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو الشركي ممنوع وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة والمحرمة الشركية الممنوعة دونك. Ici, pour terminer au sujet de la ruqya qui est permise à l'unanimité des savants, c'est celle qui va réunir ces trois conditions que l'on a citées. Quant à la ruqya qui est associationniste et interdite, c'est celle dans laquelle il y aura une demande d'aide, une demande de refuge ou de secours à autre que Allah Jalla wa Ala. Ou celle dans laquelle il y aura des noms de shayatin, des noms de démons, de diables. Ou la ruqya dans laquelle celui à qui l'on fait la ruqya a la croyance que cette ruqya, elle guérit d'elle-même. Celle qui soigne indépendamment en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Et toutes ces ruqya qui sont interdites, et qui sont donc de l'associationnisme avec Allah Jalla wa Ala, eh bien c'est celle sur laquelle le prophète alayhi salatu wa salam il a dit certes al-ruqa et al-tama'im et al-tiwala c'est du shirk. Dans le hadith ici rapporté ici par نعم Donc ce hadith, il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Taïeb. Donc dans ce hadith-là, que l'on va expliquer, inshallah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, Ruqa, Al-Tama'im, Al-Tiwala, c'est du shirk. Bien sûr, là, il ne parle pas de toutes les formes de ruqya. Il parle seulement des ruqya dans laquelle il y a du shirk. D'accord? Na'am. Et également, les tama'im dans lesquels il y a du shirk, ou qui atteignent le degré de shirk. Et Al-Tiwala, donc la troisième chose qu'il a citée ici, le prophète, salam, c'est Al-Tiwala. Al-Tiwala, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de sihr qui sert à soit séparer yani deux personnes ou soit à faire aimer une personne par une autre personne. D'accord? Par exemple, pour faire aimer une femme par son mari, hein, certains vont utiliser cette forme de sorcellerie qu'on appelle At-Tiwala. At-Tiwala. Yani c'est de la sorcellerie. Taïeb. Il dit le prophète aussi, et du polythéisme. Al-Hasil. En conclusion, Inch'Allah, en cela, est que la ruqya, certains types de ruqa sont permis et légiférés, alors que d'autres sont associationnistes et donc interdites. Et on a vu donc, alhamdoulilah, les règles concernant la ruqya pour qu'elle soit permise et légiférée. Et on a vu aussi donc les choses qui vont la rendre au contraire interdite et associationniste, hein, et prohibée. Alhamdulillah. Qala Cheikhuna l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala al-ruqafa fiha tafsil fa'in kanat min al-Qur'an aw al-Sunna aw al-Kalam al-Hasan fa'innaha manduba fi haqq al-Raqi لأنها من باب الإيمان ومن باب الإحسان ولما فيها من النفع وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له ماذا؟ أن يطلبها أو أن يبتدئ بطلبها فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحد من الخلق لا رقية ولا غيرها بل ينبغي إذا سأل أحدا يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه وهنا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق لتفقه فيها والعلم بها إلا الكمل من العباد وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله عز وجل ففهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. Et on finira sur ça, Inch'Allah. Il dit l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit que ruqa, le sujet de ruqya, il a besoin de tafsil, de développement, de détails. Donc si la ruqya, elle est faite, comme on a dit, avec le Coran, avec la Sunna, ou avec des bonnes paroles, eh bien, Raqi, celui qui fait la ruqya, faire une ruqya de cette sorte sera pour lui quelque chose qui est recommandé. D'accord? Il y a le fait qu'il fasse ruqya sur quelqu'un en utilisant les paroles d'Allah ou les paroles du prophète ou des bonnes paroles. Taïen, eh bien, ce sera une chose qui est recommandée pour Raqi. Parce que c'est un acte bienfaisant envers Al-Marqi. Donc Al-Raqi, c'est celui qui fait la ruqya. Et celui à qui on fait la ruqya, on l'appelle Al-Marqi. D'accord? Al-Raqi ou Al-Marqi. Donc, raqi, il fait du bien à al-marqi. D'accord? Parce qu'il lui est utile, il lui est bénéfique à travers son acte. Et donc, cela est recommandé pour lui. Maintenant, concernant al-marqi, la ruqya sera permise aussi pour lui. Sauf que il lui incombe de ne pas commencer yani, en la demandant à quelqu'un d'autre. Comme on a vu dans les chapitres précédents, voyez, notamment concernant le fait de parfaire et de concrétiser à la perfection, à tawhid, hein, ceux qui ne demandent pas ruqya, notamment. Voyez. Donc même si c'est permis pour le marqui de se faire soigner par la ruqya par quelqu'un d'autre, eh bien, il lui incombe de ne pas la demander en premier. Car cela fait partie de la perfection, de la confiance en Allah Jalla wa Ala et de la force de sa certitude en la puissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le fait de demander à aucune créature ni ruqya, ni rien. Ni ruqya, ni rien. Taïe. Au contraire, il faut que lorsque il demande à quelqu'un, regardez ici la faïda, une belle faïda, un bel intérêt scientifique, lorsque tu demandes à quelqu'un qu'il invoque pour toi, qu'il fasse ruqya pour toi, ou qu'il demande à Allah pour toi des choses, eh bien tu dois avoir en tête de profiter à la personne qui va faire cette invocation pour toi. Tu dois avoir en tête cette maslaha. C'est-à-dire, c'est toi qui dois avoir l'intention d'être bienfaisant envers la personne à qui tu vas demander qu'il te fasse des doigts. Pourquoi? Parce que par ta cause, yani, il va faire preuve d'adoration pour Allah Jalla wa Ala, tout en étant bénéfique et profitable pour toi. Donc toi, quand tu vas lui demander, tu vas pas lui demander juste qu'il te fasse ruqya ou qu'il invoque pour toi, mais tu vas mettre l'intention d'être bienfaisant envers lui en espérant qu'Allah il va le récompenser pour sa bienfaisance envers toi. Et pour qu'il profite de cette adoration-là, qu'il en profite par ta cause, bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit la cause de ta guérison, inshallah ta'ala. Ça y est? Donc cela fait partie des secrets de la réalisation parfaite du tawhid et de ses sens, yani, les plus sublimes pour lesquels seuls ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidés, yani, en ont conscience de ces choses-là et le savent. Ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidés vers la perfection au niveau de l'adoration et au niveau de l'asservissement pour Allah Jalla wa Ala. Ça y est? Alors que à ruqya dans laquelle on va invoquer autre qu'Allah, on va demander la guérison à autre qu'Allah Jalla wa Ala, comme font aujourd'hui les charlatans et les marabouts, hein, qui se font passer pour justement des ruqat, des raqis, des gens qui vont te faire ruqya à travers le Coran ou autre, mais qu'en vérité, ils font des choses avec des paroles yani, incompréhensibles, avec des noms bizarres, des mots bizarres, hein? Peut-être même avec des noms de shayatin et des formules, des shirk, wal'iyadu billah. Eh bien, tout ceci, si il y a des demandes pour autre qu'Allah ou une demande de guérison pour autre qu'Allah, Jalla wa Ala, eh bien, cela sera du shirk majeur. Pourquoi? Parce que ce sera une invocation et une demande de secours à autre que Allah Jalla wa Ala. Donc il dit le cheikh, fafhem, il faut que tu comprennes ce détail-là. Car attention à y mettre un jugement, yani le même jugement sur toutes les formes de ruqya. Yani tu vas dire toutes les formes de ruqya sont permises. Ou au contraire, toutes les formes de ruqya sont interdites et du shirk. Non. Certaines sont permises, certaines sont légiférées, mais certaines sont au contraire du polythéisme et donc interdites. Donc attention, il n'y a pas qu'un seul jugement, il n'y a pas qu'une forme de ruqya. D'accord? Car les unes se différencient des autres au niveau de leur cause, mais aussi au niveau de leurs objectifs et de leur finalité. والله تعالى أعلم نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى نغتي سي بإذن الله et on va parler la semaine prochaine de la deuxième chose mentionnée par l'auteur qui est التمائم les talismans ou les amulettes والله تعالى أعلم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته